Le Bray Zizel.
La petite touche pour Adnan dans la surface de réparation.
Oui, Youssef! Oui, Youssef! L'ouverture du score! Crochet, le but!
2-0 pour Brest.
Ici, c'est Brest.
Et nous y sommes déjà à l'Arena Café avec Benjamin Bourgine. Bonsoir, Benjamin.
Bonjour à tous, ici c'est Brest et c'est France Bleu que vous écoutez en direct de l'Arena Café sur le port du Château. Nous sommes ensemble eh bien jusqu'à 19h avec vous, auditeurs. N'oubliez pas au 02 98 53 65 deux fois. Et ce soir, notre invité est Youssef Adnan. Bonsoir Youssef.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Buteur vendredi dernier, vainqueur avec ce Brest retrouvé, on peut dire, d'un Tour FC bien inoffensif. Victoire 3-0 tout de même, victoire qui revigore un peu le club. Les supporters, eux, étaient en grève dans la tribune Quimper au début du match en tout cas. Alors des amours ou pas, on va en parler avec l'un des représentants du Celtic Ultra. Il continue en tout cas de demander le départ d'Alex Dupont. Le coach, lui, s'est dit pas du tout touché par ces banderoles. On l'entendra également. Dans ce Ici c'est Brest, de la voile aussi, la mini transat. Ils sont petits mais ils font le maximum. Les voiliers de 6,50 m seront en fin de semaine en Guadeloupe. Eh oui, déjà. Et puis dans le Nord Finistère, il y avait du vent aussi hier. Mais du vent essentiellement défavorable aux coureurs de Saint-Paul-Morlaix. La grande classique du Nord Finistère a rassemblé 8000 personnes. On y était en direct. Et puis vous aimez le foot, la course à pied, la voile, mais aussi le hand sur France Bleu. 4 places ce soir à gagner dans Ici c'est Brest pour le championnat féminin de hand. Et la rencontre du 14 novembre, c'est samedi prochain à l'Arena. Brest-Bretagne Handball reçoit l'équipe de Yutz, une ville de Moselle. Et ce sera la 9e journée de D2. Soyez donc à l'écoute pendant cette émission. Ici c'est Brest, jusqu'à 19h avec vous au 02 98 53 65 deux fois.
Ici c'est Brest, Benjamin Bourgine.
Pour commencer cette émission, retour en images sonores sur la soirée de vendredi en Ligue 2. C'était sur France Bleu Brésil. Brest a accueilli Tours au stade Francis Leblé et les Brestois ont marqué 3 fois. Mais le match a commencé dans une toute petite ambiance, résumée avec Thomas Lavaux.
Plus triste encore que le temps sur le stade Francis Leblé, il y a l'ambiance au coup d'envoi dans ce stade Francis Leblé. Je vais chuchoter, il n'y a pas de bruit.
Il n'y a pas un bruit, c'est vrai que c'est assez étonnant. Hein.
Tribune Quimper, les Celtic Ultra ne sont pas là, les Ultra Brestois ne sont pas là. Des Tourangeaux qui touchent de plus en plus de ballons avec Belkebla dans la surface de réparation. Heureusement qu'il rate son contrôle et que Johan Hartog peut sortir et se coucher sur ce ballon. Parce que si Belkebla il réussit son contrôle là-dessus, eh ben, il se présente en face à face face à Johan Hartog et c'est une vraie occasion de but. Et voilà, il y a enfin du public et il y a enfin de l'ambiance en tribune Quimper. Les premiers ultras sont rentrés à la 22e minute de jeu et ont déployé une banderole assez équivoque sur laquelle on peut lire Dupont casse-toi.
Très honnêtement et sincèrement, ça ne me préoccupe. Mais absolument pas. Je me sens absolument pas touché par des insultes et par des gens qui prônent bien souvent la violence.
Gaëtan Bello avec Joseph Morose, contrôle orienté pour éliminer un Tourangeau. Le ballon avec un petit peu de chance qui parvient jusqu'à Gaëtan Bello qui a pris de la vitesse. Gaëtan Bello à l'entrée de la surface de réparation pour Batocchio. Le contrôle délicat de Batocchio et il va marquer à la 31e minute de jeu. Mais qu'est-ce que c'est que ce but, Christian? Ce ballon de Gaëtan Bello.
Je crois que c'est un but du tibia.
Allez, Koubemba qui se met sur son pied gauche. Frappe de Koubemba et la belle parade de Binguru Camara. Oh, Bello qui est fauché par un défenseur Tourangeau. Il y a faute, effectivement, et il y aura coup franc pour les joueurs du stade brestois. Et à nouveau, Christian Batocchio, passeur décisif en première période, buteur en première période, qui a l'opportunité de mettre un ballon dangereux dans la surface de réparation Tourangel. Il y a Youssef Annan au deuxième poteau, il y a également Steven Joseph Moreau sur la ligne des 6 mètres. Il y a Kevin Koubemba au point de pénalty, marquage individuel bien sûr côté Tourangeau. C'est sifflé par Monsieur Roinsard. Oh, la reprise de volée de Youssef Annan qui passe juste au-dessus.
On revient au niveau du rond central. Thomas Béchard avec un petit peu de vitesse dans le jeu. Eric Thiéby.
Ouais, bon contrôle orienté de Thiéby qui va servir Joseph Moreau sur le côté droit. Il va fixer Bourg. Il a toujours le ballon. Joseph Moreau, il va frapper. Et le but de Joseph Moreau à la 56e. Le voilà. Le coup franc pour le stade brestois. Allez, s'appliquer. Frappe de Batocchio. Oh, ça passe juste à côté de la cage de Binguru Camara. Ballon bien décalé par Manuel Pérez. Et la frappe de mule de Christian Batocchio qui a peut-être été porté par le vent. Il était à 30 mètres de la cage et pas loin d'accrocher la lucarne de Binguru Camara. Et si vous voulez une petite anecdote.
Petite alors, parce que.
Ouais, parce qu'il y a
Tour joue en contre-attaque là, ouais.
Je vais vous la donner après. Ouais, reprise de volée ratée par Miracoli, heureusement. C'était Belkebla. qui au deuxième poteau a raté sa reprise sur ce centre venu de la droite. Il a pris le ballon qui rebondissait soit avec le tibia, soit avec le genou, et il l'a envoyé au-dessus de la barre transversale de Johan Hartog. Allez, Eric Thiéby qui passe à la ligne médiane, qui va s'enfermer tout seul, mais Youssef Hanan récupère le ballon et il va le glisser pour Alexandre Alphonse. Est-ce que ce sera le premier but d'Alphonse depuis novembre 2014? La frappe d'Alexandre Alphonse, mais elle est repoussée par Mingourou Camara.
Et là par contre il a un petit peu de champ devant lui, Youssef Hanan pour le
troisième.
Le troisième but brestois
et la passe décisive de Cuvillier, ça va lui faire du bien.
Dans le temps additionnel, on vient d'y entrer avec ce troisième but. Et bien voilà, les Brestois qui concluent cette rencontre. Troisième but et trois buteurs différents. Christian Batocchio tout à l'heure, Steven Joseph Moroz en deuxième mi-temps. Et dans les arrêts de jeu, et bien c'est Youssef Hanan.
Voilà, vous souhaitez réagir au résultat du Stade Brestois 29, posez vos questions à notre invité ce soir, Youssef Hanan, ou nous donnez votre avis sur, eh bien pourquoi pas, les 20 minutes de grève des supporters en tribune Quimper. Le standard de France Bleu vous est ouvert ce soir, 02 98 53 65 deux fois.
France Bleu, Brézizel.
La frappe, combien pas et le but.
Ici, c'est Brest.
C'était pas le but de... de vendredi soir, mais on va parler évidemment de l'actu du Stade Brestois. Bonsoir Youssef Hanan,
bonsoir.
Et merci d'être avec nous. Alors ce Brest Tour, on va commencer par parler de ce premier but de la soirée qui est étonnant, qui arrive un peu comme une délivrance, un moment évidemment du match où il y a 0-0. D'abord, est-ce que vous l'avez vu de près, ce but étonnant de Christian Batocchio?
Ouais, c'est sûr, j'étais juste derrière. Il y a ce bon ballon de Gaëtan Bello dans la profondeur.
Christian, une sorte de petit lobe un
petit
peu.
Petit ballon piqué comme ça. Ouais. Il y a Christiane qui derrière fait un contrôle un peu, enfin, qui se lève le ballon et puis derrière il rattrape très très bien le coup avec un geste acrobatique assez incroyable et qui passe entre les jambes du gardien de Tours.
Il le met du tibia, on peut le dire comme ça?
Ouais, il la touche du tibia, il me semble.
Bon, c'est des buts pas gags, quand c'est dedans, on est évidemment très content. Ça vous est arrivé d'en marquer des buts comme ça?
Oui, ça m'est déjà arrivé. Après, c'est vrai que c'est des fois, ça va tellement vite, on réagit un petit peu à l'instinct. Je crois que c'est ce qu'il a fait sur cette action-là, et puis ça, derrière, ça a souri.
Ce qu'on aimerait savoir, c'est si ce but-là, il n'est pas un petit peu symbolique. Alors, on va tout de suite mettre des grands mots. Et la symbolique, évidemment, c'est peut-être un peu énorme, mais voilà, quand la chance, quand la réussite tourne, on se dit que peut-être, le Stade Brestois pourrait voir un rayon de soleil dans cette saison, non?
Oui, c'est sûr. C'est pour marquer des buts, il faut aussi une part de réussite. Je pense que malgré les quelques résultats difficiles de ces dernières semaines, on a su rester droit dans nos bottes. Et puis on a su faire front, on a fait bloc, et puis là on a été récompensé avec ce but-là qui nous a délivré.
Il n'y a pas eu de victoire à Le Blé en championnat depuis Lens au mois de septembre. Est-ce que celui-là, cette victoire 3-0, on se dit quand même c'est pas un petit score. Est-ce que ça peut être un match référence, comme là aussi on le dit souvent, un peu comme une tarte à la crème, mais c'est toujours important d'avoir des références?
Oui, c'est important. Je pense qu'on a notre match référence à l'extérieur, à Créteil. Là, avec celui de vendredi, je pense qu'à domicile, avec le match de Nîmes en début de saison, je pense que c'est pas mal aussi. Maintenant, on sait qu'en Ligue 2, ça va très vite dans les deux sens et qu'il faut constamment se remettre en question et pas se relâcher et se dire que ça va aller tout seul, parce que souvent, on est renvoyé dans les cordes.
Et puis Dijon, ce soir, peut creuser aussi un petit peu l'écart. Hein.
Ouais, gros match ce soir en tête. Voilà, après, de belles équipes. Dijon peut vraiment creuser l'écart ce soir.
Est-ce que, à contrario, vous dites en face, l'équipe de Tours, ce vendredi soir, elle était étonnamment pas là? Alors Marco Simone, l'entraîneur, il a usé des termes assez clairs. Il a dit, c'est pas grave ce match parce que finalement on est resté à Tours, on n'est même pas venu. Est-ce que c'est une manière de désamorcer un petit peu les critiques sur son jeu, ou au contraire de casser ses joueurs?
Ouais, en fait je sais pas trop. Moi c'est vrai que c'est une équipe que je connais bien. J'y ai joué la saison dernière. Cette année, j'ai continué de les suivre. Et c'est vrai que il dit qu'a priori, l'équipe est restée à Tours. Maintenant, moi, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu sur le début de saison de cette équipe-là, c'est comme ça qu'ils jouent. Hein. Je veux dire, moi, j'ai pas été surpris. Bon, là où j'ai été un petit peu surpris, ça a été surtout au niveau défensif. Je pensais que c'était plus solide que ça. Maintenant, maintenant, sur le plan offensif, c'est un petit peu ce qui revient.
Avec si peu de tirs cadrés, je crois que même il y en a peut-être pas un seul d'ailleurs. Si...
Ouais, mais je crois que c'est réellement, c'est les échos que j'ai, c'est réellement le problème de cette équipe cette saison. C'est un problème offensif. Après défensivement, c'est vrai que j'ai été surpris. Je pensais pas que voilà, qu'on. Je connais les qualités de notre équipe et de mes coéquipiers. Maintenant, c'est vrai que marquer 3 buts, je pensais pas qu'on allait marquer 3 buts contre Tours.
Et quand on a une équipe en face de soi qui ne fait quasiment aucun tir cadré, on se dit aussi quoi que les défenseurs, que toute l'équipe de Brest a fait bien son travail défensif.
Oui, oui, complètement. On a été bien en bloc. C'est vrai que on a rarement eu un bloc aussi compact. Ça les a énormément gênés. Eux aussi nous ont gênés au début. Hein. Je pense que le résultat est quand même assez flatteur parce que bon.
Flatteur.
Ouais, assez flatteur parce que je pense que 3-0 c'est quand même sévère parce qu'ils étaient quand même assez bien en place. Maintenant, c'est voilà, la victoire est largement méritée.
Vous jouez en pointe dans cette équipe qui a été plusieurs fois remodelée. Par exemple, là, Joseph Monrose, il était sur le côté. On se dit que là aussi, il y avait des choses qui peut-être fonctionnaient un peu mieux, un peu plus huilées que d'habitude. Comment vous êtes senti dans le dispositif du 4-4-2 de Brest?
Ouais, c'est vrai que là, sur ce match-là, ça a plutôt bien fonctionné. Après, c'est vrai qu'à deux devant, il y a trois semaines à Créteil, ça avait très bien marché aussi. Je pense qu'il y a les mises en place. Après, il y a le schéma tactique. Après, c'est tout dépend de l'animation qu'on y met. Et puis, je pense que là, on a mis ce qu'il fallait vendredi. Et puis, les matchs précédents, on n'a peut-être pas mis autant que ça soit à Dijon ou bon, on fait pas un mauvais match à Dijon, mais je pense qu'on n'a pas mis autant que vendredi dernier.
Trois buts en trois matchs sur un plan personnel, ça c'est plutôt sympa.
Ouais, c'est vrai que j'ai pas mal de réussite en ce moment, ça se passe bien. J'ai plaisir à jouer avec mes coéquipiers et puis bah, je suis content d'être sur le terrain.
C'est quelque chose qui voilà, renforce la confiance d'un attaquant, de marquer à chaque fois, même quand son équipe ne gagne pas, comme contre Valenciennes.
Oui, c'est sûr, c'est toujours important pour un attaquant de garder le rythme et de marquer. Maintenant, voilà, l'objectif prioritaire, ça reste l'équipe et la victoire, comme à Créteil, il y a de ça un mois maintenant où voilà, on gagne 2-0, mais je marque pas, mais au contraire, voilà, la victoire est tout aussi importante pour moi.
On va parler du match de coupe dans quelques instants. On reste un tout petit peu sur la Ligue 2 puisque vos prochains rendez-vous, c'est Le Havre, Sochaux, Laval. Il y a un petit révélateur là dans ces trois prochains matchs. Il va falloir rester sur cette lancée.
Ouais, il faut qu'on gagne en régularité. Ouais, je crois que là on a fait un bon match à domicile. Maintenant il faut garder ce niveau de jeu et puis garder ce rythme là pour aller faire un résultat au Havre et puis ensuite chez nous contre Sochaux derrière. Je pense que c'est surtout ça qui nous fait défaut, c'est d'un match sur l'autre. Bon, on monte à tout autre visage.
Et est-ce que dans ce match-là, justement, contre Tours, vous avez des acquis, des choses qui, là, on se dit, tiens, là, ça fonctionne, faut garder ça. Je sais que cette semaine, enfin, ou plutôt la semaine dernière, vous avez beaucoup discuté entre vous. C'est ce que Eric Thiemy nous a dit, c'est ce que aussi Ali Keita nous a dit après le match de vendredi soir. Alors, quand il y a des discussions, qu'on est un petit peu à corps ouvert et que derrière il y a une victoire, on se dit, bah, peut-être c'est le moment de consolider des choses, des acquis.
Ouais, on s'est. Voilà, on s'est parlé. Après, voilà, je suis pas sûr que ça soit ça qui est fait que. Mais maintenant, c'est vrai que c'est important quand voilà, dans une équipe de foot, on est nombreux. C'est important de temps en temps, voilà, faire un petit point, voir un peu ce que chacun pense et surtout que chacun puisse apporter un petit peu son regard sur le collectif. Maintenant, voilà, c'est à nous de les certitudes. On en a, oui, forcément, on a des certitudes sur l'état d'esprit. On a des certitudes sur le bloc équipe. Je crois que tout le monde s'approprie le projet du club. Maintenant, il faut le montrer sur le terrain et le confirmer surtout.
La Coupe de France ce week-end, samedi, vous jouez contre une division d'honneur, le club de la montagne, US Montagnard, dans Zinzac le Christ. Est-ce que c'est un rendez-vous comme un match de championnat? Voilà, il est le week-end, on le prépare comme tel ou différemment?
Non, c'est comme un match de championnat. On le prépare de la même manière. Le rythme d'entraînement dans la semaine est le même. Je veux dire, on lève pas le pied dans la semaine. On s'entraîne de la même manière. Donc, on sait que c'est des matchs très très compliqués. C'est jamais facile de passer les premiers tours en Coupe de France. Donc voilà, on va là-bas avec en respectant cette équipe. Et puis on y va pour avec l'envie de se qualifier.
C'est un objectif qui peut vous tenir à cœur, la Coupe? Youssef,
la coupe, on sait très bien que la coupe c'est une aventure humaine avant tout. On peut jamais Coupe de France, on peut jamais prévoir d'aller au bout, d'aller à tel et tel stade. Maintenant, on sait que voilà, il faut faire les choses sérieusement. Les professionnels, il y a ces matchs à jouer qu'il faut gagner.
C'est plutôt sympa de rester pas trop loin. On se dit voilà, bon, le Morbihan près de Lorient, encore pour les supporters, c'est faisable. Il y aura certainement une ambiance assez sympa à Manet-Braz.
Ouais, c'est sûr, vaut mieux. C'est vrai que nous on préfère rester dans la région plutôt que, au moins sur les premiers tours, plutôt que se déplacer, avoir des longs déplacements. C'est vrai que c'est mieux. Et puis pour, comme vous dites, pour la Bretagne, c'est très bien.
Allez, justement, on va jouer dans une petite seconde à propos de Coupe de France à gagner. Deux places pour le handball sur France Bleu. Sur France Bleu Brésil, ici c'est Brest jusqu'à 19h et premier jeu ce soir, on vous attend au standard au 02 98 53 65 deux fois, non pas pour aller supporter le Stade Brestois ce week-end dans le Morbihan, mais pour aller supporter les Brestoises du Brest Bretagne Handball. Ce sera aussi samedi et ce sera la 9e journée de championnat de D2 de Hand. Alors une question donc sur le Stade Brestois et la Coupe de France. L'an dernier, on s'en rappelle, Brest avait joué un quart de finale de cette compétition après avoir éliminé Grasse, le Paris FC, Laval, Cholet et Metz. Les Brestois avaient chuté de peu, c'est vrai, mais avaient chuté contre leur adversaire en quart de finale. Et cet adversaire était-ce le Paris Saint-Germain, l'AJ Auxerre ou bien Sedan, contre qui Brest a été éliminé l'an passé en Coupe de France? Paris, Auxerre ou bien Sedan? Voilà, vous nous appelez au 02 98 53 65 deux fois. C'est Stéphanie au standard et a gagné donc deux places pour le handball.
On joue ensemble au 02 98 53 65 65.
18h26 sur France Bleu, Brest Izel toujours en direct de Brest et de l'Arena Café. On va parler, Youssef Adnan, un peu plus de votre parcours personnel, un peu difficile en début de saison avec Brest. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu la situation qui vous avait mis un petit peu sur la touche, sur le côté, hein, on peut le dire comme ça?
Oui, c'est sûr. Début de saison un petit peu compliqué. Il y a eu le mercato d'été qui a été mouvementé en ce qui me concerne. J'ai eu des opportunités, j'ai eu des envies d'ailleurs, et puis le club ne m'a pas tout simplement pas laissé partir. Donc après, à partir de là, ça a été un petit peu plus compliqué. Au mois de septembre, après derrière, on a eu, je pense, l'intelligence de se rencontrer à plusieurs reprises, de discuter, de mettre les choses à plat. Et puis,
fallait ce moment-là. Fallait ce moment de.
Oui, je pense que c'était important parce que voilà, on était dans une impasse. Je pense que parler, mettre un peu d'eau dans son vin, et puis derrière, ça a débouché sur quelque chose de positif.
On va prendre en direct notre invité Maxime des Celtic Ultra. Bonsoir Maxime, vous êtes en liaison par téléphone avec nous.
Oui, bonsoir.
Bonsoir et merci. Je voudrais avoir votre avis, Maxime, sur les banderoles qui ont été déployées en début de match à partir de la 20e minute, puisqu'avant il n'y avait pas de supporters, en tout cas de supporters ultra dans les tribunes de Brest. Dites-nous un petit peu le sentiment qu'il y a dans ce club de supporters.
Bah, tout d'abord, c'est dans la continuité de ce qui a été fait à partir de la fin de saison passée. C'est-à-dire, il y avait déjà eu, par exemple, une action d'entraînement ou plusieurs champs par ailleurs. Après, c'est un problème bien plus global. Hein. C'est un ras-le-bol général qui peut être aussi partagé par une partie du public quand on voit surtout le stade qui se vide actuellement. Après, il y a plusieurs causes. Hein. C'est pas que Dupont, il y a aussi Yvon Kermarec. Mais c'est un tout. Ça part d'abord de torts non assumés de la part du président Kermarec
et d'Alex. Alors ça, on a bien compris, Maxime, que voilà, vous avez des choses à approcher. Est-ce qu'on peut vous demander ce que vous attendez peut-être maintenant du Stade Brestois? Il y a peut-être une victoire aussi vendredi soir qui fait peut-être qu'on se dit que les choses tournent peut-être dans le bon sens.
Ben, tout d'abord, c'était pas une question de joueur au final. C'était un problème plus global. Après. C'est certes, il y avait les résultats qui commençaient à aller un petit peu mal. Ensuite, ce qu'on attend, nous, c'est concrètement, c'est une vision pour le club. Tout simplement, quand on voit que Monsieur Dupont a commencé à vouloir construire une équipe à partir de novembre, alors qu'il pouvait le faire, déjà dès la fin de saison passée, en essayant de lancer des jeunes sur la fin de saison où on n'avait plus trop d'objectifs. Là, ça aurait pu être vraiment construire une vraie équipe. Là, ce qu'on se demande actuellement, c'est l'avenir de notre club.
Vous dites on a perdu un peu de temps en début de saison.
un peu de temps, énormément même avec certains jeunes. Quand on voit un jeune comme Ibrahim Bassissoko qui joue en équipe de France jeune, qui est très apprécié et qui normalement aurait dû avoir du temps de jeu. Quand on voit Corentin Jacob qui vient enfin de faire ses premières minutes en Ligue 2, oui, on a perdu énormément de temps, oui.
C'est vrai qu'il est dans un match, oui. Merci beaucoup Maxime d'avoir été avec nous sur France Bleu ce soir. On va, alors c'est pas forcément facile pour lui, Youssef Adnan, vous n'êtes pas forcément dans le rôle de l'entraîneur ou du président, mais est-ce que vous vous dites vous aussi que peut-être voilà, il y a un vivier dans le club, qu'il faut faire confiance aux jeunes qui débutent, qui ont 19-20 ans et qu'il faut
je pense qu'à Brest il y a de bons jeunes. Voilà, maintenant voilà, c'est après ça c'est les décisions qui reviennent à l'entraîneur, au staff technique. Après voilà, c'est à eux de voir quand est-ce qu'ils sentent que c'est le bon moment pour lancer ces jeunes-là. Après moi, c'est vrai que cette question-là, c'est vrai que j'essaie de pas trop rentrer dans ces choix-là. Maintenant, c'est sûr qu'on peut c'est légitime aussi que les supporters se posent ce genre de questions. Maintenant,
quand vous vous dites en début de match, il y a pas un bruit dans le stade, on a l'impression qu'il n'y avait pas de supporters. Est-ce que c'est gênant quand on est joueur, quand on a besoin peut-être d'un stade un peu galvanisé comme ça autour de soi?
Oui, c'est sûr que nous on préfère avoir nos supporters avec nous. Après, nous on a bien compris que c'était pas presque ce que nous dit après ce qu'on a vu, c'est que voilà, c'était pas envers nous les joueurs. Maintenant, c'est vrai que nous on préfère quand le club est uni, quand les supporters poussent leur équipe, et puis je pense que surtout ça dérange les supporters adverses quand vous avez un public qui pousse son équipe et puis qui nous aide à gagner, parce que c'est clairement le 12e homme.
Hein. Tout à l'heure, voilà, on disait c'est pas pour rien qu'on dit le 12e homme.
C'est clairement le 12e homme. Hein. Nous, quand on va jouer à l'extérieur, qu'on tombe sur une équipe avec un public qui la pousse, et ben ça transcende ses joueurs et c'est plus compliqué.
Alex Dupont disait après le match, je suis pas du tout touché. Il est dans son rôle aussi, c'est son attitude qu'il faut avoir de pas être bousculé par ce genre de critiques.
Bah, c'est un petit peu, je pense que voilà, c'est un entraîneur qui a beaucoup d'expérience. C'est, à mon sens, c'est pas la première fois qu'il est confronté à cette situation. Il sait très bien la gérer. Maintenant, il n'y a jamais personne qui est content d'être critiqué ou d'être sifflé. Mais bon, je pense qu'il est assez costaud pour faire face à tout ça. Et puis encore une fois, moi je le répète, j'espère que tout va rentrer dans l'ordre très rapidement et qu'on pourra compter sur tout le monde, toutes les composantes du club, pour pouvoir aller de l'avant et avoir des résultats.
On va prendre notre gagnant au jeu par téléphone, c'est Nicolas qui a gagné les deux places pour le handball. Bonsoir Nicolas, vous appelez de Brest.
Bonsoir.
Et merci de nous passer ce petit coup de fil. Alors, dites-moi, contre qui Brest l'an dernier avait été éliminé en Coupe de France?
La
JOCR, exactement. Dites-moi Nicolas, on est... Exactement, exactement. C'était très long et 0-0 à l'issue du temps additionnel. Maintenant qu'on est avec vous Nicolas, avez-vous une question pour Youssef Adnan qui est à nos côtés?
Moi je soutiens Youssef, j'étais au match encore vendredi, je sais qu'il est là, c'est notre meilleur buteur, il faut le soutenir.
Merci, c'est gentil.
4 buts.
Il y a un soutien, 4 buts et il est
merci
là.
Beaucoup.
Et merci d'être resté.
Merci beaucoup. Merci.
Ça a été un peu compliqué, mais bon, moi j'ai un soutien total pour Youssef.
C'est gentil, merci beaucoup.
Nicolas, votre avis par rapport à la grève des supporters, est-ce qu'il faut continuer ce genre de mouvement, avoir un stade un petit peu atone comme ça en début de match?
Je sais que Youssef ne peut pas trop parler, mais bon, on est en fin de cycle, tout le monde le sait. On va avoir un nouveau président avec le handball, on est bien placé, hein. On sait un petit peu. Comment ça va tourner, a priori? On est en fin de cycle, et puis bon, les supporters, ils sont là, ils payent leur place, ils ont un soutien aussi du club, donc moi je les soutiens aussi.
Merci beaucoup Nicolas de nous avoir appelé ce soir et vous repartez donc avec ces deux places pour aller voir le handball. Bonne soirée à vous, à bientôt.
Merci beaucoup et merci.
Merci.
Ici, c'est Brest. Benjamin Bourgine. Seul a dit l'étude, j'ai des secrets nombreux.
pour animer tes jours. Les livres ont dès lors peuplé ma solitude, et j'appris que tout pleure. Voici des nœuds du phare, des perles et de l'or. Et j'essayais sur moi l'innocente imposture, et je parais mon deuil et je pleurais encore.
Pascal Obispo sur France Bleu, Brésil. Ici, c'est Brest, c'est jusqu'à 19h et c'est avec vous au 02 98 53 65 deux fois.
À Brest, des tours de Quai-l'Hiverzan au fort du Questel. Ma radio, c'est France Bleu, Brésil.
Le quiz Braise, c'est le jeu de 11h sur France Bleu Braise-Isel. On peut gagner si on a lu le journal, écouté la radio, regardé la télé, ou encore si on a une bonne culture générale, ça marche aussi.
J'ai la bonne réponse.
C'est très bien, mais j'ai pas encore posé la question.
Ah ben, peut-être vous croyez, j'ai des visions des fois. Hein.
Au pif, le quiz Braise, ça le fait aussi du lundi au vendredi, de 11h à 11h30 sur France Bleu Braise-Isel.
Salut, c'est Eric Bastien. Vous êtes musicien, chanteur, vous avez un groupe et vous voulez vous faire connaître. Rien de bien compliqué, tout se fait en un clic.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Envoyez-moi vos chansons originales à topdécouverte@radiofrance.com.
Oui, bah, du coup j'adore les rencontres.
On travaille surtout en duo et en trio. Ouais.
On essaie de mélanger très métissé.
On se téléphone, on se cale une date et hop, on vous découvre sur France Bleu. Je vous attends et faites pas les timides. topdécouverte@radiofrance.com.
Avec France Bleu et M6, la gourmandise n'est plus un vilain défaut. Le meilleur pâtissier sur M6, mercredi 11 novembre à 20h55. Les pâtissiers amateurs mettent l'œuf dans tous ses états avec des desserts en mousse, meringue et guimauve. Trois nouvelles épreuves à savourer.
Tu m'as bluffé là.
À vos marques, prêts,
pâtissez. Le meilleur pâtissier sur M6, mercredi 11 novembre à 20h55, dans vos chroniques télé et sur francebleu.fr. France Info présente « Du bonheur, aujourd'hui », un livre de Michel Serres et Michel Polaco. Des petites pépites philosophiques qui vous ramènent aux choses essentielles de la vie. Rire aux éclats, marcher en rythme, grimper en haut d'un phare, plonger dans un sommeil réparateur, partir au Tibet. Il existe mille façons d'être heureux et de rendre notre quotidien savoureux. Un livre étonnant, détonnant, réconfortant, intelligent, émouvant. Du bonheur aujourd'hui, de Michel Serres et Michel Polaco, une coédition France Info.
Ici, c'est Brest. Benjamin Bourgine.
18h40, toujours en direct de Brest avec Youssef Adnan. Youssef Adnan, à partie de l'entretien, on va parler du foot un peu en général. La Ligue 1, ton regard sur la Ligue 1, avec, pour commencer, ces questions de présence de Caen, de Angers dans les 5 premiers depuis le début du championnat. Elle marche bien, ces équipes qui étaient en Ligue 2 l'an dernier ou il n'y a pas si longtemps pour Caen. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Je pense qu'en Ligue 1, il y a une grosse domination du Paris Saint-Germain qui est indéniablement au-dessus de, en termes de moyens, en termes d'effectifs, au-dessus des autres équipes. Après, derrière, on sent que le football souffre financièrement parce que derrière, vous avez des équipes qui il n'y a pas si longtemps que ça, étaient vraiment des grosses équipes en termes d'effectifs et de moyens, à l'image de Marseille, de l'Olympique Lyonnais, de Lille, de Monaco. Et puis là, on sent que c'est beaucoup plus compliqué financièrement pour eux. Donc, c'est des effectifs composés de très bons joueurs de Ligue 1, mais qui n'ont plus la même marge de manœuvre vis-à-vis des autres et n'ont plus cette domination aussi écrasante que par le passé.
Et Angers, par exemple, qui jouait contre vous l'an passé, vous dites, si Brest était monté, on aurait notre chance, peut-être qu'on serait.
Comme
Brest était monté,
place de leader. Oui, parce que quand vous montez généralement. Vous avez, quand vous gardez une bonne ossature, vous avez cette spirale positive acquise à l'étage inférieur. Donc, quand vous montez derrière, vous êtes un petit peu, vous êtes aussi un petit peu transcendé par le fait de jouer en Ligue 1. Donc, on voit qu'il y a des joueurs qui se révèlent, qui s'affirment. Je crois qu'après, c'est la deuxième année la plus difficile.
Le Lorientais Benjamin Moukondjo, co-meilleur buteur avec Ibrahimovic. Alors le regard du buteur justement sur ces deux fines gâchettes de la Ligue 1, il peut aller loin Moukondjo ?
Oui, c'est un très très bon joueur, c'est un bon attaquant. Il a toujours marqué partout où il est passé. C'est quelqu'un d'assez adroit devant le but, très adroit même. Ça tourne bien pour lui à Lorient. Lorient, de toute façon, c'est une équipe qui joue au ballon, on le sait. Donc à partir de là... généralement quand vous êtes un bon attaquant, généralement vous prenez souvent du plaisir à Lorient.
Les Lorientais, vous les voyez finir peut-être dans la première partie de tableau
Oui, je pense. Ouais. Oui, je pense. Nous, on les a joués en amical. Et encore, c'était l'équipe bis. C'est une équipe qui a toujours prôné, qui a une identité de jeu, qui prône du bon jeu. Maintenant, comme j'ai dit, ils profitent aussi du fait qu'il n'y ait plus, à part le Paris Saint-Germain, qu'il n'y ait plus d'autres équipes qui dominent réellement ce championnat, à l'image des Lyons, Marseille, qui à l'époque étaient quand même au-dessus. Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus homogène et on a des équipes comme Lorient, première partie, Angers, Caen, qui sont des bonnes équipes, mais qui avaient du mal à exister par le passé.
Un mot de l'équipe de France, on apprend aujourd'hui qu'on va rappeler Perrin, le Stéphanois, à la place de Sacco qui est forfait. C'est un bon choix pour Didier Deschamps.
Oui, je pense que Loïc Perrin, c'est quelqu'un qui mérite l'équipe de France de par sa longévité et puis sa régularité dans ses performances avec Saint-Etienne. Parce que c'est bien pour lui, et puis bon, le sélectionneur certainement qui le suit depuis un petit moment, donc ça c'est une bonne chose.
Allez, on va terminer sur la Ligue 2, on l'a dit, un Nancy-Dijon ce soir 20h30, c'est le dernier match de cette 14e journée pour l'instant. Le trio tête c'est Metz, Dijon et justement Nancy. Est-ce que Brest trouvera une petite place pour entrer sur ce podium?
Nous, on est maintenant dans une. Ce qu'on recherche avant tout, c'est de la régularité. Je pense qu'à partir du moment qu'on arrive à se stabiliser, à trouver de la régularité, tout est possible dans ce championnat. Je crois qu'on n'a pas moins de qualité que ces équipes-là. Maintenant, il faut le montrer sur le terrain et surtout être régulier.
19 points pour l'instant pour Brest, à 4 points justement de la place de Nancy. Mais Nancy ou Dijon ce soir auront un petit peu plus de points, évidemment. Vous regardez ça
à chaque journée où on essaie d'évacuer au maximum le classement et ses questions de points.
C'est plus facile de regarder le classement quand on a gagné.
ça veut dire qu'on le regarde quand même malgré tout.
Ça veut dire qu'on le regarde quand même.
Merci beaucoup Youssef Hanan d'avoir été avec nous ce soir dans Ici c'est Brest. Et on va poursuivre avec un autre jeu dans quelques secondes. On rappelle évidemment que la Coupe de France vous attend ce week-end à Manébras, dans Zazac le Christ contre la Montagne.
C'est ça.
Et ce sera samedi. Très bonne soirée Youssef, à bientôt.
Merci de même.
Deuxième jeu de la soirée, je vous avais promis deux fois deux places, et bien c'est parti. La deuxième paire de places pour le handball, ce sera ce week-end, ce sera aussi samedi soir et ce sera pour l'équipe de Brest-Bretagne Handball face au club de Yutz. Une autre invitation donc pour deux personnes à gagner ce soir sur l'antenne de France Bleu Brésil. Si vous répondez à la question suivante, où se trouve justement cette ville de Yutz? Ça s'écrit Yutz et ce n'est pas un mot pour le Scrabble, c'est bien une ville. Est-ce en Alsace? Est-ce dans les Landes? Ou bien en Moselle? J'aurais Laurent Leclerc là, chez moi, la technique là, qui est très très dubitative. Il va regarder sur le script parce que j'ai écrit la réponse, mais il ne le savait pas avant. Je répète donc la question. La ville de Yutz est-elle placée en Alsace, dans les Landes ou bien en Moselle? Vous répondez au standard de France Bleu Brésil à gagner deux places, deux invitations pour ce match de Brest-Bretagne handball ce week-end, samedi soir à l'Arena.
On joue ensemble au 02 98 53 65 65.
C'était le rendez-vous de course à pied ce week-end. Saint-Paul-Morlaix, 10 km ou semi-marathon pour les courses principales. 8000 coureurs à pied ont foulé donc les routes du Nord Finistère. Une météo très douce, mais avec un petit peu de vent. Hein. Tout de même, ils étaient environ 4500 sur le 10 km, le Tolé-Morlaix, remporté par un Kenyan, Stéphane Ogari, en 28 minutes 48 secondes. Et puis, ils étaient environ 3000 sur le semi-marathon Saint-Paul-Morlaix, avec la victoire de l'Éthiopien Getache Tedia Gemane. Il a conservé son titre justement grâce à un chrono de 1h05 56 secondes. France Bleu Brésil était en direct de ce Saint-Paul-Morlaix. C'était hier après-midi sur notre antenne. Retour sur l'épreuve.
La Saint-Paul-Morlaix en direct sur France Bleu Brésil.
En direct de Morlaix, en effet, quasiment au pied du viaduc, quasiment à l'arrivée. Nous avons également vu de nombreuses personnes déguisées en toutes sortes de personnages divers et variés. N'hésitez
pas. Des bananes.
Pardon ?
Des bananes.
Des bananes.
Qui est le fruit le plus calorique. Hein,
vous avez vu des bananes, ça commence à m'inquiéter.
Si, j'en ai vu une avec des pattes et tout, elle courait même.
On va essayer de la rattraper. Ok.
Non, la banane, elle va plus vite que moi.
J'ai couru avec mon épouse, Christelle.
Bonjour Christelle.
Bonjour.
Alors, comment ça s'est passé Christelle?
Très bien, difficile entre le 9e et le 13e kilomètre. Mais bon, pour un premier, on est content. Notre but, c'était d'allonger nos distances, on a réussi, on est content.
On nous annonçait un peu de pluie, beaucoup de vent et finalement, on a très peu de vent et surtout un gros soleil. Mais on a eu quand même un 10 km exceptionnel, là, exceptionnel.
Donc remporté par Stéphane Ogari en 28 minutes 49 secondes.
Bravo, parce que là, il y avait pas mal de vent de face. Donc c'est un 28 minutes 49. Il devrait être en moins de 28-30 sur un temps correct.
Voici le vainqueur, il vient d'arriver à l'instant même, et j'ai bien l'impression, je vous reconfirmerai ça, que c'est Getachew Tedlak, l'Éthiopien, qui conserve son titre, Nicolas.
C'est confirmé.
C'est une course qui est ancrée dans la culture de la course à pied. C'est un ville à ville, il n'y en a pas tant que ça des villes à ville. Hein, il y a Sedan-Charleville, Marseille-Cassis, Marvejols-Mende. Et là, on a Saint-Paul-Morlaix. Donc c'est des courses qui font partie du patrimoine culturel de la course à pied.
Sur France Bleu Brésil, vous avez reconnu Thomas Lavaux, Nicolas Roel qui était hier au micro, et puis également François Le Dicez, l'organisateur de ce Saint-Paul-Morlaix. Merci à tous d'avoir participé hier à cette émission spéciale en direct de Saint-Paul-Morlaix. On poursuit dans Ici c'est Brest avec notre deuxième gagnant ce soir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Antonio Martins.
Oui, c'est ça.
Vous allez bien?
Oui, ça va.
Oh, je crois que vous êtes en route là, non? Ou j'espère que vous êtes arrêté sur le bord de la route.
Ah non, je vais m'arrêter là, parce que là je suis dans une accélération, je sais pas où je peux m'arrêter là. Ah je peux pas, là je peux pas, il faut que je m'attarde au point.
Bon, on va faire vite alors et on ne le dira pas à la sécurité routière. Vous gagnez deux places pour le Brest-Bretagne Handball ce week-end. Dites-moi, dans quel secteur se trouve la ville de Yutz?
La Moselle.
C'est la Moselle, c'est gagné. Vous irez donc samedi prochain, vous et la personne de votre choix, voir le match de Brest-Bretagne Handball en D2 contre le club de Yutz. Merci beaucoup.
Merci, bonne soirée.
Allez, à bientôt. On vous laisse sur la route, ce sera évidemment plus prudent sur France Bleu Brésil. On fait la route ensemble jusqu'à Ploudel-Mézo par exemple. À bientôt, Antonio.
Merci, au revoir.
Ici, c'est Brest. Benjamin Bourgine.
18h50 en direct de Brest, on va parler de voile à présent avec Denis Hugues qui nous a rejoint par téléphone. Bonsoir Denis.
Bonsoir.
Et évidemment il est question de mini transat après de 9 jours de course hein, et la deuxième étape est partie de Lanzarote aux Canaries en direction de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Après 9 jours de course, eh bien ils vont très vite, hein, ils vont très très vite les ministres, ils font presque du tout droit d'ailleurs, hein, il est question d'alizés, il est question d'allure portante. Denis, est-ce qu'on a une idée du moment à laquelle les coureurs que vous suivez depuis votre rôle de directeur de course adjoint, est-ce qu'on sait à peu près à quel moment ils vont arriver en Guadeloupe?
Bah oui, on les attend aux alentours du 12, entre le 12 et le 13, peut-être le 12 au soir, après avec le décalage horaire entre la Guadeloupe qui est en TU plus 4 et nous qui sommes en TU, enfin TU moins 4 et nous qui sommes en TU plus 1, ça fait pas mal de décalage. Donc,
mais ils vont bon, ça veut dire...
vite, hein, sur la route qu'ils ont, en fait, ils sont descendus un peu au sud pour aller chercher des alizés. Ils sont à 11 nœuds de moyenne, ce qui est quand même quelque chose d'incroyable pour des bateaux de 6m50.
Oui, c'est effectivement des moyennes qu'on a l'habitude de voir pour des bateaux un peu plus gros. Ça veut dire en gros jeudi, vendredi, on peut le dire simplement comme ça?
Oui, exactement, jeudi, vendredi, je pense jeudi soir pour les premiers. Après, ça va s'étaler parce qu'il y a énormément d'écart dans la flotte hein, entre les prototypes et les bateaux de série. Et c'est vrai qu'il y en a qui ont fait des escales, notamment ou aux Canaries au départ, ou au Cap-Vert un peu plus au sud. Et donc, ils sont repartis, qui ont réparé. Et donc, je pense qu'il y aura au moins 10 jours entre les premiers et les derniers. Quoi.
Ça, c'est l'écart, évidemment, qui se creuse au fur et à mesure des conditions et de la traversée de l'Atlantique. On rappelle que la course est partie de Douarnenez, c'était fin septembre, qu'elle s'est arrêtée donc à Lanzarote, aux Canaries. Il y a eu un peu plus d'un mois d'interruption. Et là, de nouveau, des allures très, très rapides. Ça veut dire qu'on est sur une édition un peu record, Denis, pour les vitesses des bateaux, pour le temps passé en mer?
Ah ben, je crois qu'on est sur une édition de temps de référence, effectivement. Moi, je suis de la Mini Transat depuis très longtemps. Et c'est vrai que cette année, on avait fait quand même pas mal d'hypothèses et qu'on est vraiment bien au-delà des hypothèses qu'on avait formulées sur les temps de course. Nous, on les attendait plutôt aux alentours du 14 novembre. Et là, s'ils arrivent le 12 ou le 13, bon, c'est vrai que ils sont vraiment très, très rapides. Mais déjà, la première étape avait été aussi... assez rapide, hein. Ils n'étaient pas loin du record sur la première étape. Je crois qu'ils vont établir un temps de référence sur la deuxième. Ça veut dire d'une chose qu'ils ont eu des très bonnes conditions météo. Donc, si on se souvient de l'expérience de 2013, ça veut dire que tout l'organisateur de l'année des courses a bien su anticiper cette année quitte à faire une escale plus longue à Lanzarote. Et ça veut dire aussi qu'on a eu des très bonnes conditions météo et que les bateaux seront quand même aussi très bien préparés parce qu'il faut tenir quand même la cadence hein, sur un petit bateau de 6m50 sous-spi, grand voile à faire asperger pendant 10 jours. C'est sûr qu'on n'a pas besoin de douche salée à l'arrivée, mais plutôt d'un bon petit gonfle et d'une bonne douche froide. Quoi.
C'est effectivement un programme qui s'annonce pour les ministres. Alors dites-nous, dans quel état d'ailleurs ils doivent à peu près se trouver personnellement après 9 jours de course, on règle tout seul son bateau, on essaie de dormir, de manger un petit morceau. Est-ce qu'ils sont déjà complètement exténués alors où l'on parle?
Non, parce que je pense pas, parce que il y en a qui sont exténués, bien sûr, parce qu'ils ont des problèmes de pilote automatique, mais c'est vrai que les pilotes automatiques, ce qui permet de diriger le bateau sans tenir le volant, hein, ce qu'on voit venir d'ailleurs en automobile, par exemple, ont maintenant fait énormément de progrès et permettent justement à ces navigateurs de pouvoir un peu lâcher la barre. Hein, on le voit aussi sur les 60 pieds Moka, hein, où les skippers en solitaire ne peuvent pas barrer 24 heures sur 24. Donc après, ils s'organisent. Et je pense que quand ils voient les moyennes qu'ils arrivent à faire, c'est-à-dire les 230, 240, 250 000 par jour, ça fait presque 500 km par jour sur un petit bateau de 6m50.
Ça veut dire qu'ils sont dessus, quoi.
Ça donne obligatoirement envie de continuer à progresser tant qu'ils sont dans ce régime des vents qu'on appelle l'alizé, qui n'est pas toujours un vent facile, hein, qui est aussi facilement de 50 degrés en direction et facilement de 30 à 40 km/h en force. Mais là, ils sont dans ce régime-là. Ça va se gâter pour les suivants, donc ils auront la double peine. ils vont avoir des vents plus erratiques derrière. Et donc, obligatoirement, les écarts vont s'accentuer aux arrivées. Quoi.
Quelle dernière nouvelle vous avez là ? Qui était en tête la dernière fois que vous avez regardé le classement, à la fois pour les prototypes et pour les séries ? Je crois qu'en série, c'était une bataille entre Julien Pulvey et Yann Lipinski.
Exactement. Julien, pour l'instant, a fait un petit peu le trou. Il a une dizaine de milles d'avance sur Yann, mais Yann n'a pas dit son dernier mot. Hein. Après, ils ont creusé le trou sur Terreal avec Tanguy le Turquet, quand même, qui est 30 milles derrière. Par contre, en prototype, il y a la bagarre est encore très ouverte, même si François Denis a vraiment mené la course de bout en bout sur son Naughty Park. Derrière, il y a quand même des concurrents comme Michele Zambelli, un Italien. Il y a Clément Buissou sur son Le Bon Agent. Ils n'ont pas dit leur dernier mot parce qu'ils sont positionnés un peu plus au nord. Donc on verra comment ça passe. Et la troisième problématique qu'on va avoir à résoudre, ce sont ce qu'on appelle les fameuses sargasses, qui sont des espèces d'algues qui se déposent en ce moment sur les côtes guadeloupéennes. Et donc, quand ça prend...
qui ralentissent les bateaux, voilà, ouais, qui s'en mêlent dans la quille, dans les safrans.
Voilà, des énormes tagliatelles qui se prennent dans les appendices. Et là, le bateau est obligé de s'arrêter, de les enlever. Donc, ça sera un peu la guerre des sargasses, et je pense aussi à l'arrivée. Quoi.
Et bien, on verra ça, justement, puisque France Bleu Brésil sera à l'arrivée de cette Mini Transat 2015. Merci beaucoup, Denis Hugues, d'avoir été avec nous pour faire le point ce soir sur la course. On vous retrouve de l'autre côté de l'Atlantique. À bientôt.
Merci. Bonne soirée. Au revoir.
Bonne soirée à vous. On reste dans la voile avec, on parlait des IMOCA. La Transat Jacques Vabre, justement, c'est entre Le Havre et Itajaï. Ce week-end, les premiers bateaux sont arrivés au Brésil. En ultime, les grands trimarans. La victoire est pour François Gabart et Pascal Bidégory. Mais donc, sur l'eau, il reste encore un sacré match, notamment en IMOCA. Les bateaux du Vendée Globe avec en tête Vincent Rio et Sébastien Coll. Juste derrière eux, le long des côtes brésiliennes, ils s'approchent doucement mais sûrement d'une arrivée en milieu de semaine. Armel Lecléache et Erwan Tabarly, pour l'instant, occupent la deuxième place. Et Armel Lecléache, joint à la vacation ce matin, elle nous annonçait justement avoir eu des problèmes d'énergie, fuite de gazole, donc il y a du gazole dans le bateau, c'est quand même incroyable. Ils sont obligés donc de rationner au maximum leur énergie, et donc évidemment l'électricité est coûte Hermel Lecléache.
Ces derniers jours, on avait eu quelques problèmes techniques à résoudre, d'énergie notamment, et maintenant ça va mieux. Ça monte bien là, en fonction des nuages, le vent là est assez instable, là, donc il y a des moments où il y a suffisamment de vent pour qu'on puisse accélérer avec le foil, quasiment jusqu'à Itajaï, donc avec des bords à tirer, donc ça va être une nouvelle donne. Donc voilà, il va falloir être vigilant parce qu'il y a quand même des passages compliqués devant nous à gérer, pas mal de plateformes pétrolières, des hauts fonds, des caps, enfin bref. Voilà, une zone côtière compliquée, le choix du large peut être intéressant, enfin il y a pas mal d'options possibles. La course va jouer maintenant quoi, dans les prochaines 48 heures, enfin en tout cas dans les dernières lignes droites.
Voilà, Armel Lecléache sur Banque Populaire avec Erwan Tabarly. Pour l'instant, ils sont deuxième au classement de cette flotte des IMOCA dans la Transat Jacques Vabre qui arrivera entre mercredi et jeudi, on l'espère pour eux. Voilà, ici c'est Brest, se termine. On se retrouve dans quelques petites secondes. À tout de suite en direct de Brest.
Vous ne trouvez pas que les mots sont ambigus, voire louches? Arguerio, un trésor, rien de ça. Chilao, chelou, 7h55 chez Axel, 13h55 à domicile. Ne frappez pas, sonnez.
France Bleu Matin. Franz Massard.
De l'info toutes les 10 minutes, la météo, l'horoscope, la musique que vous aimez et à tout moment, entre la douche et le café, la possibilité de vous exprimer en direct et de réagir par téléphone à l'actu du jour.
France Bleu.
À demain.
France Bleu Matin, dès demain, 5h.
France Bleu et le Crédit Mutuel.
Vous connaissez un peu la chanson ?
Donne le la au talent France Bleu 2015.
Est-ce que vous voulez chanter avec moi ?
Jeudi, allez, go. France Bleu fête ses talents.
Chimène Badi,
Korsu Mezu Mezu,
Patrick Fiori,
Davide Esposito,
la légende du roi Arthur,
Frérot de la Vega,
Patrick Bruel,
Luan
et Marina Kaye.
Un concert exceptionnel aux Folies Bergères à Paris, jeudi dès 21h.
Les talents France Bleu s'écoutent en live.
En partenariat avec Télé 7 jours.
France Bleu.
Ici c'est Brest, on l'a compris, émission préparée cette semaine avec Thomas Lavaux et Anna Higot. La technique à Brest aujourd'hui, Laurent Leclerc, Corentin Bossenec.